Il est 8h19 sur France Culture. Nous rejoignons nos scientifiques pour parler d'intelligence et d'intelligence artificielle.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous sommes donc en compagnie de Lionel Nakache, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, de Gérard Berry qui fait office de Brice Couturier ce matin, mais dans le civil il est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, et enfin de Jean-Gabriel Ganassia, spécialiste de l'intelligence artificielle. Bill Gates, Jean-Gabriel Ganassia, a récemment expliqué qu'il fallait que les individus s'inquiètent de la super intelligence, qu'il était en quelque sorte inquiet que les gens ne soient pas inquiet vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous comprenez ces craintes ?
Écoutez, je crois que l'intelligence artificielle, les différentes technologies de traitement de l'information prennent une part de plus en plus importante dans la société actuelle et qu'elles transforment énormément de choses. Mais en même temps, je crois que les inquiétudes telles qu'elles sont exprimées par des gens comme Bill Gates ou par un certain nombre d'autres grands entrepreneurs américains, je pense, sont très excessives et elles vont très au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et on peut se demander s'il n'y a pas derrière d'autres objectifs qui sont des objectifs plus politiques.
Lesquels, par exemple ?
Montrer que la technologie est en train de prendre un empire sur l'ensemble de la société et que c'est elle qui va gouverner le monde qui va venir. Et d'ailleurs, les dirigeants de Google ont expliqué que effectivement, nous avions quelque chose de très inquiétant qui se profilait et qu'ils allaient concevoir une charte éthique pour la société. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est gouverner tout un tas d'institutions, battre monnaie, établir le cadastre, etc. Et gouverner aussi notre esprit et notre morale. Et je crois qu'il faut s'élever contre ça. Je pense qu'il faut dire que nous avons toujours une liberté, parce que ce que nous expliquent des gens comme Bill Gates, c'est que un événement va arriver et que ensuite nous n'aurons plus aucune liberté, qu'il y aura une espèce de déterminisme technologique, et je crois qu'il faut s'opposer à ça. Je crois que vraiment la technologie ne nous tombe pas sur la tête comme le ciel chez les Gaulois, mais que nous avons toujours le choix de décider de ce que sera notre avenir.
On va revenir là-dessus, mais à ce stade des matins, Gérard Berry, vous qui faites Brice Couturier, normalement Brice Couturier prend la parole et dit qu'il n'est pas d'accord. Expliquez-nous en quoi vous n'êtes pas d'accord.
Non, je suis assez d'accord.
Ah, mince.
Une des questions, c'est qu'on ne pourra pas réagir en continuant à vouloir rester ignorant. C'est quelque chose que je dis tout le temps, mais les gens en France ne sont aucune idée de ce que c'est que l'informatique, à un niveau très très, à un niveau quelconque en fait. La plupart des gens ne savent pas du tout de quoi il s'agit, et en ne sachant pas de quoi il s'agit, il n'y aura pas de réaction possible. Il est vraiment important de savoir de quoi il s'agit, et bon, par exemple, il y a des sujets sur lesquels il faut vraiment s'inquiéter. Les robots tueurs, c'est sérieux, là, il n'y a pas de problème, ça existe, il n'y a pas besoin de beaucoup d'intelligence pour faire un robot tueur, faut pas croire, et ça existe.
Dites
vraiment.
Dites-nous ce qu'est un robot tueur.
Un robot tueur, c'est par exemple un petit robot autonome qui vole, ou pas autonome d'ailleurs, qui vole et qui est extrêmement libre, extrêmement petit, et qui peut tuer des gens.
Aujourd'hui, c'est légal. Est-ce que les conventions de Genève, les droits de la guerre autorise ce type d'objet ?
Aucune idée, mais on a fait des choses sur les armes chimiques, on a fait des choses sur les armes nucléaires. Il est indispensable de faire quelque chose dès maintenant sur l'informatique. Le problème, c'est qu'on va avoir des négociateurs qui connaissent pas le sujet.
Alors, des armes autonomes, Gérard Berry, il en existe. Si on prend, par exemple, des armes très rudimentaires comme une mitraillette tenue par un fil avec un système de déclenchement autonome, Jean-Gabriel Ganassia ?
Oui, ce que l'on appelle autonome pour les armes, ce sont des armes qui sont capables de sélectionner d'elles-mêmes leur cible. Or, jusqu'à présent, que ce soit une mitraillette, que ce soit un bombardier, que ce soit un drone, il y a un opérateur qui est capable de viser. L'idée, c'est que on va spécifier la cible. Par exemple, on va tirer sur tout ce qui bouge, sur tous les barbus. Le problème, c'est que définir un ennemi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, on est très très loin du compte.
Gérard Berry.
Oui, je suis d'accord. La question de l'autonomie, c'est effectivement l'autonomie de décision, mais même sur les drones, si les drones sont assistés par des systèmes de reconnaissance, ils vont dépendre de la qualité de ces systèmes, et la qualité de ces systèmes, on peut pas la garantir à l'heure actuelle. Donc,
Lionel Nakache.
Oui, moi, je suis pas du tout spécialiste en robots, mais ni d'ailleurs en ordinateur. J'utilise beaucoup les ordinateurs, mais je suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle. Mais je voudrais juste revenir sur un élément qui me paraît central, fondamental, et qui a été rappelé par Gérard Berry dans sa chronique, c'est qu'il faut démystifier. Et démystifier, c'est-à-dire sortir des fantasmes, etc. Mais quand je dis démystifier, c'est pas dans une sorte de posture béate, positiviste et fantastique. C'est au contraire parce que pour apprécier le mieux possible les atouts, mais également les risques de l'intelligence artificielle, il faut être capable d'appréhender ce qu'elle est exactement pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle n'est pas. Et je pourrais prendre juste une image rapidement. Vous prenez l'automobile par exemple. L'automobile, moi je me souviens qu'au lycée, on nous disait il y a 10 000 Français qui meurent par an de l'accident. Un village disparaît tous les ans. On a réussi par les développements par exemple à limiter ces risques qui sont réels, à y faire attention. Il y a 2-3 000 Français qui meurent par an. Et bien pour l'intelligence artificielle, je pense que c'est la même chose. Il ne faut pas être aveugle aux risques, mais il faut pouvoir les aborder rationnellement.
Et puisque vous parlez des véhicules, Lionel Nakache, aujourd'hui 10 février, les autorités de sécurité routière américaines ont estimé que le système d'intelligence artificielle pilotant les voitures autonomes de Google pouvait être accepté sur la route, ce qui témoigne donc d'une avancée importante, puisque ça signifie, Jean-Gabriel Ganassia, que les voitures autonomes vont aujourd'hui pouvoir circuler comme d'autres voitures aux États-Unis. Est-ce qu'une voiture autonome, cela relève de l'intelligence artificielle? Gérard Berry fait non de la tête. Mais...
Alors, une voiture autonome en tant que telle, relève en partie de l'intelligence artificielle, dans la mesure où il y a des capteurs et puis il y a des techniques d'apprentissage machine qui vont permettre de piloter cette voiture. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je crois très important de démystifier les choses. On assiste à un paradoxe dont a parlé Gérard Berry tout à l'heure, c'est que d'un côté, il y a eu qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle, il y a eu un certain nombre de déceptions, un certain nombre de critiques, et en même temps, les résultats de l'intelligence artificielle sur les 60 dernières années sont impressionnants. Des machines qui reconnaissent la parole automatiquement, de la compréhension du langage, de la reconnaissance des formes, les voitures autonomes dont on parle aujourd'hui, les joueurs d'échecs, tout ça montre tous les succès l'intelligence artificielle. Et je crois que s'il y a déception, c'est qu'il y a derrière l'image qu'on se fait de l'intelligence artificielle quelque chose qui dépasse complètement ce qui est de l'ordre de la rationalité, donc il faut expliquer quels sont les objectifs et les projets qui sont les nôtres.
Gérard Berry, sur les voitures,
alors,
vous n'aviez pas l'air
d'être d'accord. La voiture Google n'est pas autonome, elle a un conducteur qui doit pouvoir prendre le pouvoir à tout moment, ce qui est extrêmement différent. Et ce qui pose beaucoup de problèmes d'interaction machine, parce que quand est-ce que le conducteur va décider qu'il prend le pouvoir, c'est un problème qui est connu dans les avions, mais qui sera beaucoup plus grand. Et il faut rappeler qu'aux États-Unis, la conduite n'est pas du tout la même qu'en Europe.
C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire que ça intéresse personne de conduire aux États-Unis, alors qu'en Europe, c'est encore considéré comme une activité importante.
Jean-Gabriel Ganassia, c'est une question classique dans ce domaine. Si la voiture Google a un accident dont elle serait responsable, évidemment, qui est responsable ? Le programmateur, le propriétaire de la voiture, Google ?
C'est une question qui se pose aujourd'hui avec tous les robots. On a affaire à des automatismes qui sont d'une telle complexité qu'il est difficile d'anticiper totalement l'ensemble des déterminations concrètes à un moment donné. Donc bien sûr, avec le recul du temps, on peut faire la rétro-analyse, mais c'est extrêmement difficile. Donc la question de responsabilité se pose, et effectivement, on ne sait pas qui sera responsable. Ça peut être le constructeur, s'il y a une avarie de construction, ça peut être le propriétaire, et puis ça peut être l'utilisateur. Donc ce sont des questions nouvelles qui vont se poser dans les années qui viennent.
Gérard Berry.
Elles sont déjà en train d'être résolues. Toyota a été condamné pour des bugs dans le contrôle moteur qui ont tué des gens. Volvo pour des bugs dans les freins qui ont tué des gens. C'est déjà fait par la justice. Bon, il y a des lois générales qui s'appliquent. Et les constructeurs européens sont pas tellement prêts à faire des voitures autonomes parce qu'ils savent bien que ce sera eux les responsables d'accidents.
Toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence tout court, Lionel Nakache, l'une des questions qui se pose est de savoir ce qu'est la conscience d'une machine, si une machine peut avoir une conscience. Et évidemment, on va repartir de la définition qu'on donne lorsqu'on s'intéresse aux êtres humains. Pour vous qui êtes spécialiste du cerveau humain, comment définiriez-vous la conscience ?
Alors pour moi, et quand je dis moi, c'est pas que moi, c'est une certaine communauté scientifique, c'est avant tout un phénomène psychologique, la conscience. On parle de la subjectivité du jeu, J.E. à la première personne. Donc ce qu'on veut dire, c'est qu'un sujet qui est conscient, c'est un sujet qui n'est pas simplement éveillé, les yeux ouverts, qui peut faire des choses, mais qui est capable d'avoir ce qu'on appelle un néologisme, une rapportabilité subjective. C'est-à-dire que par exemple, quand je vous perçois, non seulement mon cerveau, mon esprit traite qui vous êtes, mais je suis subjectivement capable de dire « je vous vois ». Donc cette capacité de nous rapporter certains de nos états mentaux, c'est ça, cette rapportabilité, donc en gros une conscience qui est toujours réflexive, conscience de quelque chose, c'est le critère vraiment, la pierre angulaire qui pour nous est la recherche du critère. Ça peut paraître très abstrait comme ça, mais ça peut être à la fin très concret. Quand vous êtes face à un patient qui peut faire des gestes, mais qui ne semble pas capable ni de se communiquer à lui-même ni à vous qu'il est conscient qu'il est en train de faire ces gestes, vous pouvez vous poser la question de son état de conscience.
Mais votre rapportabilité, comme vous dites, en quoi diffère-t-elle tout simplement de la réflexivité cartésienne?
Non, c'est la réflexivité cartésienne, absolument. Et du coup, ça, on peut partir de cette pierre angulaire. Évidemment, c'est la conscience, on peut élargir vers d'autres définitions. Mais le point intéressant, c'est que ce critère-là n'est discuté par personne. Un individu qui dispose d'une rapportabilité, d'une réflexivité cartésienne, comme vous dites, il est conscient. Ensuite, la question peut se poser, est-ce qu'on peut être conscient dans d'autres situations? Ça, c'est une question riche et ouverte. Mais si on s'accroche à ce critère qui est absolument spécifique, on peut du coup commencer à comprendre comment ça se passe dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conditions cérébrales à l'apparition d'une subjectivité, c'est-à-dire d'un sujet qui est capable de dire « je », de dire « je pense, je vois, je veux, je ressens », etc.
Mais alors, Jean-Gabriel Ganassia, vos bécanes, elles ont une rapportabilité?
Alors, ça, c'est une bonne question. Hein. D'abord, bon, on peut quand même aller plus loin. La notion de conscience peut signifier plusieurs choses. Ça peut être une conscience existentielle. On voit une machine et on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'elle est mue par une espèce de souffle, une âme hein, animée. Hein. Donc ça, c'est un type de conscience qui est à l'œuvre et qui est extrêmement important. Hein. Aujourd'hui, on développe tout un tas de robots compagnons sur lesquels on va projeter une conscience de ce type. Deuxième conscience, c'est une entité qui perçoit des émotions, qui a mal, qui souffre, qui a du plaisir. Bon, là, on a du mal à imaginer qu'une machine ait des émotions. En tout cas, dans l'état actuel des choses, on est très éloigné. Puis la troisième, c'est effectivement qu'une machine soit capable de se représenter elle-même. C'est assez proche de cette notion-là de réflexivité. Alors là, on pourrait imaginer effectivement qu'un jour des machines soient en mesure de se représenter elles-mêmes en train d'agir. Et on a, en particulier dans les systèmes d'apprentissage, des tentatives pour essayer de faire des machines qui soient capables de regarder leur propre activité et de s'améliorer à partir de leurs traces d'action.
Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne?
Ce sont des pistes de recherche. Il y a un certain nombre d'études sur ce sujet-là.
Gérard Berry.
Ah bon, sans exagérer les choses, oui, mais par exemple la machine qui joue au Go, là, la récente, joue contre elle-même pour apprendre beaucoup. Mais bon, c'est une vision très 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 restreinte de la conscience.
Une vision restreinte de la conscience, en tout cas une vision qui renvoie à un certain nombre de nos lectures en science-fiction. On pense évidemment à K. Dick, on pense à Asimov et on pense notamment à la charte éthique, puisque vous l'évoquiez, Jean-Gabriel Ganassia, celle que veulent mettre en place ou que voudrait mettre en place Google notamment. On pense aux trois lois de la robotique d'Asimov. Elles ont été édictées il y a longtemps, c'était en 1942. Alors il y avait par exemple un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Est-ce qu'aujourd'hui, ces lois de la robotique, elles sont présentes dans les ordinateurs que vous programmez?
Alors, ça fait partie de questions que l'on étudie, hein, entre autres d'ailleurs dans mon équipe, hein, on a tout un tas de travaux sur cette question-là. Alors, tout d'abord, il faut prendre garde. Il y a un débat, en particulier aux États-Unis. Ron Arkin explique que si l'on introduit des robots sur le champ de bataille, ceux-ci se comporteront éventuellement de façon plus éthique, entre guillemets, que les hommes, parce qu'on leur a mis les lois de la guerre. Le problème, c'est que quand on connaît les lois de la guerre, on se rend compte qu'elles ne sont pas automatisables. En particulier, vous avez une loi qui est celle de discrimination. Comment distinguer un civil d'un militaire? Et donc, bien sûr, si on sait que le civil et le militaire sont différents, ça pose pas de problème. Le problème, c'est ce qu'on appelle le jugement. Et ça, c'est très difficile de le mettre dans un robot. De même, il y a un deuxième principe qui est celui de proportionnalité. Comment faire en sorte que la réponse soit proportionnelle à l'attaque? Alors, c'est déjà difficile pour un homme. On imagine encore plus que ce soit difficile pour un robot. Donc ça, c'est le premier aspect. En revanche, il y a un deuxième aspect, c'est qu'on peut faire en sorte que vous ayez des agents artificiels qui vous aident à mûrir une décision. Et ce qui est important dans l'intelligence artificielle, ça fait écho à ce qu'a dit Gérard Berry tout à l'heure, c'est pas seulement l'automatisation, c'est que les machines peuvent faire des choses que nous ne savons pas faire et nous aider. Donc c'est une intelligence non pas seulement autonome, mais une intelligence ajoutée et qui nous aide nous-mêmes à devenir plus intelligents.
Lionel Nakache.
Oui, de manière, sur cette intelligence artificielle dont on débat, les robots, il y a un point aussi qui me semble, en tout cas moi personnellement important, c'est que on est passé depuis le XVIIe siècle, on peut dire avec Descartes, Vaucanson, Lemaître, à des sortes d'expériences de pensée sur qu'est-ce que ça serait qu'un homme-machine ou une intelligence artificielle, et on passe aujourd'hui à des situations dans lesquelles ces pures expériences de pensée, on peut commencer à les incarner, en fait, à avoir des systèmes qui sont capables, et du coup, ça nous intéresse, moi comme neuroscientifique, pas comme chercheur en intelligence artificielle que je ne suis pas, mais comme neuroscientifique, ça m'intéresse de voir jusqu'où on peut arriver à dissocier des choses. C'est-à-dire que si on nous avait posé la question, moi enfant, eh bien par exemple, un être humain, lorsqu'il est capable de battre le champion du monde des échecs, non seulement il est conscient, mais il dispose de beaucoup de capacités cognitives qu'on peut décrire. Eh bien le fait de montrer qu'on est capable artificiellement de créer un algorithme qui est capable de battre le champion du monde des échecs humains, mais qui par ailleurs est incapable de faire la moindre des autres activités cognitives qu'un homme fait, eh bien ça m'apprend des choses sur la dissociation entre des fonctions de l'esprit. C'est-à-dire que du coup, chez l'homme, ce qu'on va essayer de chercher, peut-être pas ce propre de l'homme comme une essence, mais en tout cas, de comprendre vraiment l'essence de la conscience, par exemple, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Eh bien, d'arriver à dissocier des facultés grâce à des expériences de pensée qui tournent en réalité par l'intelligence artificielle, ça, pour moi, c'est un outil qui me permet de modéliser et d'imaginer quelle va être, en fait, la nature de l'esprit.
Mais enfin, d'après ce que vous racontez tous les trois, Gérard Berry, la conception de l'intelligence artificielle repose sur une sorte de base de règles avec une incapacité pour la machine, pour l'instant, de ressentir quoi que ce soit, mais en particulier des émotions, des choses qui constituent en quelque sorte l'humanité de l'homme.
Oui, ben moi je pense que la science qui m'intéresserait dans ma prochaine réincarnation, si j'en avais une, ce serait évidemment la jonction des neurosciences et de l'informatique, parce que les neurosciences progressent à toute allure, parce qu'on peut aller voir ce qui se passe dans le cerveau, entre autres, et parce que les chercheurs font en ce moment des choses formidables, elles progressent plus vite que l'informatique, je pense, à l'heure actuelle d'ailleurs, et la liaison entre les deux est vraiment un sujet fantastique qu'on peut aborder pour la première fois dans l'histoire. Donc ça c'est vraiment sérieux.
Lionel Nakache, vous pouvez donner des illustrations concrètes de cela. Et on dit que les neurosciences avancent très vite, mais par exemple...
Par exemple, un exemple classique, c'est que tout le monde connaît l'ADN. Parce qu'on l'apprend au lycée, ça a été découvert dans les années 50 par Watson et Crick. Eh bien, une des tâches importantes des neuroscientifiques, c'est cette fois-ci de trouver le code, mais non pas le code de l'ADN, mais le code que les réseaux cérébraux utilisent pour arriver à coder ces objets mentaux abstraits que peuvent être, par exemple, la perception de votre visage ou bien un souvenir d'une émotion. Eh bien, dans cette recherche des codes, parce qu'il n'y en a pas un seul, des codes, en fait, que le cerveau utilise pour coder l'information, on peut dire rapidement, mais que depuis les années 60-70, on a une progression vertigineuse de cette compréhension. Et pour revenir sur la question des émotions qu'on discutait à l'instant, une des questions clés pour nous, par exemple, en neurosciences, c'est est-ce qu'un système purement informationnel, donc qui est capable de coder des informations de manière complexe, est capable de pouvoir ressentir des émotions, ou est-ce qu'il faut, par exemple, une notion d'incarnation, d'embodiment ? Est-ce qu'il faut un corps, une chair, si vous voulez ? Et ça, c'est des éléments qui aussi sont un discours entre neurosciences, informatique, robotique, de pouvoir comprendre d'où jaillit l'émotion dans un système informationnel, par exemple.
Le problème, c'est que pour un certain nombre de philosophes, je pense notamment à Martha Nussbaum, une philosophe américaine, les émotions ont une vertu cognitive. Et il n'est pas si facile que cela de distinguer ce qui relève du cognitif
relève... Je ne connaissais pas Martha, mais absolument, les émotions ont une vertu cognitive, et notamment, on peut renvoyer aux travaux de Damasio, par exemple, et avant lui aussi d'autres, qui ont permis de montrer que lorsque vous prenez une décision rationnelle, eh bien, la décision optimale, souvent, ne repose pas uniquement sur la rationalité, mais également sur l'intégration d'éléments émotionnels. Donc, il nous arrive de rencontrer des malades, par exemple, qui, suite à des lésions du lobe frontal, sont capables d'apprécier rationnellement une situation de manière optimale, de vous dire « voilà ce qu'il faudrait faire, mais je ne le fais pas ». Et parce qu'il leur manque une intégration des émotions qui vont avec. Et donc là, on est vraiment dans un sujet aussi qui est à l'intersection. Et c'est pour ça qu'on revient sur cette notion qui, pour moi, m'est chère, c'est que ce qu'on appelle l'intelligence, peut-être, ouvre des portes qui sont plus vaste que celle qu'on imaginait auparavant. C'est-à-dire que intégrer l'émotion ou la finesse ou la théorie de l'esprit dans l'intelligence et comprendre quelles sont ses bases, c'est un des défis, comme le disait Gérard, hein, de peut-être des prochaines décennies, quoi.
Gérard Berry.
Ouais, moi, je pense effectivement que l'émotion est très importante chez un scientifique. On pense souvent qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui calcule. Mais je pense que tout ce qu'il invente, c'est dans l'émotion. Et ça le prend par surprise. Donc, c'est des sujets totalement fascinants.
Des sujets fascinants avec, donc, l'inquiétude, le besoin de réinjecter de l'éthique là-dedans. Et il y a des robots qui font particulièrement peur, Jean-Gabriel Ganassian, en ce moment. Ce sont les systèmes de trading haute fréquence avec des algorithmes qui opèrent sur les marchés. Ça, par exemple, est-ce que vous considérez que ce sont des dépositaires de l'intelligence artificielle, des robots comme les autres ?
Alors, ce sont des robots au sens où ils ont des... capteurs qui prennent de l'information et ensuite ils ont des effecteurs qui opèrent un certain nombre d'opérations sur les marchés financiers. La question, bien sûr, c'est de savoir ensuite quel usage en est fait. Mais ça, c'est une question qui dépasse nettement l'intelligence artificielle, puisque c'est la question de la finance, c'est-à-dire est-ce que la finalité de la bourse, qui est quand même de permettre d'investir pour développer des industries, est-ce que en quelques microsecondes, une industrie est capable de mieux se développer ? J'en doute fortement.
Est-ce qu'il existe des neurones éthiques, Lionel Nakache ? On a parlé des neurones miroirs, on a parlé de beaucoup de capacités notamment.
Alors, je vous répondrai d'une formule rapide, mais un neurone dans un bocal, ça fait rien. Donc un neurone éthique, non, ça veut rien dire. Mais par contre, des circuits cérébraux complexes qui sont impliqués dans l'éthique, en tout cas dans le sens des décisions, dans l'aptitude d'une décision qui prend en compte des règles, évidemment ça existe. Et ça existe pourquoi ? Parce que à nouveau, la neuropsychologie nous montre que des patients qui ont certaines lésions vont pouvoir perdre spécifiquement certaines aptitudes à prendre des décisions qu'on qualifierait de morales, par exemple.
Et nous avons reçu ici Scott Atran, un scientifique américain, à la suite d'autres scientifiques, Steven Pinker par exemple, certains pensent qu'il y a une inscription de la morale dans le cerveau, une forme de naturalisation des normes morales. Lionel Nakache, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on a un peu plus de lumière là.
Oui, on a beaucoup plus de lumière, on sait très peu de choses à nouveau, hein, il faut être très humble, mais néanmoins ce qu'on voit c'est que le modèle qu'on pouvait avoir auparavant, une sorte de tabula rasa, qu'un enfant naît sans aucune aptitude, est évidemment complètement faux. Un enfant né avec énormément d'aptitudes, un bébé humain et probablement même in utero, a déjà par exemple des circuits cérébraux qui sont génétiquement spécialisés pour le langage par exemple. Alors si on bascule ensuite vers l'interaction interpersonnelle qui sont les fondements de l'éthique, en gros c'est comment je vais me comporter lorsqu'il y a un autrui en face de moi, et bien là aussi on commence à avoir des éléments qui très tôt nous montrent qu'il y a des aptitudes de cette dimension et on peut la rechercher pas seulement chez l'être humain mais chez des primates non humains, dans d'autres espèces animales. Donc effectivement ce que vous rappeliez comme cette sorte de naturalisation de la culture, pour nous c'est pas juste une formule abstraite ou une sorte de programme idéologique, ce sont des observations qui nous permettent de repenser la façon de laquelle la culture et du coup l'intelligence artificielle procède d'une certaine nature, c'est-à-dire qu'elle est produite par des esprits humains malgré tout, qui ont une histoire et une culture.
Messieurs, merci de nous avoir éclairés sur l'intelligence artificielle. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lionel Nakache, L'homme raisonnable, aux éditions Odile Jacob.